Les capsules du patrimoine, bonjour. L'émission Les capsules du patrimoine déchiffre une époque, une architecture ou un savoir-faire pour mieux comprendre d'où on vient et où on va. C'est l'émission de l'équipe du service inventaire du patrimoine du Pays Midi-Quercy, aujourd'hui avec Léa Gérardin-Macario et Sandrine Rueffli, pour la suite de l'épisode du mois dernier autour du fonds Paul Fort. Si vous vous souvenez, Paul Fort était un auteur et photographe amateur au tournant du 19e et 20e siècle et il a immortalisé Caylus et ses alentours, fixés des visages des travailleurs et des scènes de vie quercinoise. Un fabuleux fonds photographique de plus de 1500 plaques de verre a rejoint les archives départementales de Tarn-et-Garonne l'année dernière après avoir sommeillé des dizaines d'années dans des malles d'un grenier lotois. Les archives conservent la mémoire écrite et photographique du département de Tarn-et-Garonne, véritable trésor composé de sources fiscales, administratives, familiales ou encore professionnelles. Les archives publiques ou privées sont confiées à des spécialistes qui les classent, conservent, communiquent et valorisent. Delphine Florec est chef du service archives et conservation aux archives départementales, service du conseil départemental de Tarn-et-Garonne.
Ce qui nous tient dans notre métier, c'est vraiment ces découvertes, ce travail de recensement des collections, des témoignages sur l'histoire, sur l'histoire du département, la vie de ses habitants. Voilà, à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau des archives publiques que des archives privées. Sachant que c'est sûr que ce type d'enquête, on le mènera plus spécifiquement sur les fonds d'archives privées, puisque les administrations ont l'obligation en fait, hein, de nous verser leurs archives historiques et également de nous solliciter pour les éliminations, alors que les particuliers, les personnes physiques ou morales ne connaissent pas forcément notre existence. Donc c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a encore beaucoup de travail de communication, de pédagogie à faire, parce qu'en fait... Nous sommes potentiellement intéressés par des fonds d'archives familiales, des fonds d'archives personnelles, d'entreprises. Enfin, il y a tout un panel en fait, de fonds d'archives privés qui peuvent justement venir compléter les fonds d'archives institutionnels qu'on a et qui souvent montrent comment la société s'est appropriée, accaparée une politique publique ou en tout cas comment a réussi à vivre dans tel ou tel territoire. Donc c'est vrai que là, il faut effectivement, notamment sur les fonds photographiques, hein, sur lesquels on avait peut-être un peu de retard, hein, donc c'est bien de faire un point, il est même temps de faire un point actuellement, sur les fonds photographiques anciens qui existent encore dans le département, parce que ce sont des supports très fragiles, mais et qui sont aussi, quand elles sont conservées en des mains privées, ne sont pas toujours conservées dans de bonnes conditions. Et puis surtout, c'est tout un patrimoine qui est quand même... qui a une symbolique folle. Enfin, je veux dire, de pouvoir se représenter comment vivaient nos ancêtres au début du XXe siècle ou même au XIXe siècle, c'est très difficile. Ce n'est pas les archives publiques qui vont nous permettre de le voir. Les archives publiques, alors, elles ont leur importance, hein. Pour la généalogie familiale, cadastrale, enfin, au niveau de l'inventaire du patrimoine, elles savent de quoi je parle. Mais c'est vrai que, après, comment les gens ont vécu, ça, c'est vrai qu'on est à la recherche de ces écrits du fort privé, de ces photographies, de ces dessins, de ces lettres qui sont irremplaçables, en fait. Et c'est là le statut d'une archive, c'est que c'est un document unique. Un document imprimé, un ouvrage, une brochure, un livre. Ça, vous pouvez le retrouver en plusieurs exemplaires. En France, comme à l'étranger d'ailleurs. Une archive, c'est un document unique. Si vous détruisez une archive, c'est fini. Elle est perdue à tout jamais. Voilà, donc ça c'est notre métier, c'est notre mission, c'est de sauvegarder et... de valoriser ce patrimoine.
Avec des connaissances historiques, géographiques et puis techniques.
Oui, alors c'est vrai que historique, géographique, ça on l'apprend aussi, on peut aussi l'apprendre sur le tas. On n'est pas forcément historien pour être archiviste. Par contre, on a effectivement cette fibre, cette sensibilité à l'histoire et puis aussi à servir nos concitoyens si jamais ils veulent comprendre d'où ils viennent.
Vous avez des connaissances, ne serait-ce que moi, le cyanotype
Oui, alors par contre, en connaissances techniques, ouais, ça c'est sûr qu'on a des formations, un peu comme les bibliothécaires ont leurs normes, leur façon de classer, de décrire. Nous, on a aussi nos normes, qui sont des normes internationales. Et puis, ce qu'on privilégie par rapport à un centre de documentation, on ne va pas classer les documents par les thématiques. On va toujours privilégier le producteur, le détenteur. C'est le cas pour les archives publiques. Hein. On classera un fonds d'une administration en vertu de son histoire, de son évolution, de ses activités. Et pour un fonds privé, c'est exactement la même chose. Que ce soit des archives d'entreprise, des archives d'associations, de partis politiques, d'architectes, d'archives familiales. Et c'est pour ça aussi que souvent, ça prend du temps en fait, de classer des fonds privés, peut-être même plus qu'un fonds d'archives publiques. C'est parce que finalement, il faut recréer un petit peu sa généalogie, son activité, son évolution. Et ça, on ne le trouve pas dans les livres. Hein. Il n'existe pas comme des manuels d'administration où on peut suivre, voilà, je ne sais pas, la préfecture, son histoire du début du 19e à aujourd'hui. Un fonds privé, pour peu qu'il arrive en vrac, ce qu'on appelle en vrac, bah vous représentez, hein, enfin, c'est-à-dire vraiment pas classé, mal identifié, ou en tout cas identifié selon celui qui l'a créé. C'est pas toujours très simple, en fait, hein, de rentrer dedans et de comprendre sa démarche. Donc voilà, ça prend du temps, en fait. Le classement est une période qui prend beaucoup de temps et qui est un travail assez... assez isolé, alors que la collecte, par exemple, on est beaucoup en relation avec l'extérieur, hein. Que ce soit au niveau de la collecte d'archives contemporaines ou d'archives anciennes, on en trouve encore d'ailleurs, ou d'archives privées. Là, on est beaucoup dans le contact, la discussion, l'explication aussi de comment conserver au mieux, comment aussi peuvent nous être données ou déposées des archives privées. On peut aussi envisager un dépôt numérique si besoin. Et puis après, on revient ensuite à l'humain au niveau de la communication, puisque là, on collecte toutes ces archives-là pour les communiquer un jour ou l'autre. Alors, elles ne sont pas toutes communicables de suite, hein, dès qu'elles arrivent dans nos locaux. Il y a des contraintes, il y a des restrictions qui sont liées à la loi, puisque toutes les informations ne sont pas communicables de suite, et c'est bien normal. Mais en tout cas, là, c'est aussi notre... L'idée, c'est de rendre au citoyen, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de lui expliquer son histoire, ou en tout cas, si à un moment donné, il a envie de commencer à faire des recherches sur tel ou tel sujet, potentiellement, nous allons avoir quelque chose qui pourra l'intéresser.
On peut donc vous contacter si on est détenteur de fonds, si on a des choses dans sa cave dont on ne sait pas quoi faire, mais qui potentiellement pourraient vous intéresser.
Complètement. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Je pense que les gens n'ont pas forcément conscience du patrimoine qu'ils peuvent détenir chez eux et dont ils ne savent pas quoi faire. On a un site internet sur lequel vous pourrez trouver nos coordonnées, une partie de nos inventaires, des archives numérisées, hein, des sources généalogiques de première importance qui sont aussi disponibles. Et voilà, un certain nombre de guides qui permettent d'orienter les recherches, hein, en désignant les fonds les plus intéressants, et sur lequel aussi on trouvera l'article de Camille qui a paru dans la revue Patrimoine du Sud.
De retour dans l'émission Les Capsules du Patrimoine, l'émission du service inventaire du PETR du PMI d'Icquercy. Inventaire du patrimoine, on en parle avec Sandrine Ruefli et Léa Gérardin-Macario. Bonjour toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
La place des archives dans le service inventaire du patrimoine, on a plus l'habitude de vous voir errer parmi des murs en pierre écroulés ou devant des façades qu'on imagine défraîchies, mais en fait pas du tout. Vous avez repéré la minuscule petite coup de peinture ou trace de coup de burin qui fait qu'elle est exceptionnelle. On a moins l'habitude de vous croiser dans des bibliothèques sombres avec des gants et des masques.
Alors effectivement, si on fait un petit rappel du travail d'inventaire, c'est un travail de recherche, d'enquête scientifique, qui a pour finalité, pour but d'améliorer les connaissances sur le patrimoine du territoire. Nous, c'est les 49 communes du pays Midi-Quercy. C'est un travail méthodologique. Et la consultation des archives est une étape importante et principale de notre métier, au même titre que l'enquête de terrain. Alors, en amont du travail de terrain, ou en parallèle, on fait dans un premier temps, avant de se rendre aux archives, une recherche bibliographique pour faire le point sur ce qui a été publié à l'échelle d'une commune ou d'un bâtiment. Ensuite, on consulte les plans cadastraux anciens, les plans cadastraux actuels, notamment pour identifier les éléments disparus, les maisons qui ont pu disparaître ou être modifiées. Et puis, il y a aussi un travail de dépouillement d'archives pour documenter certains de ces édifices, de ces bâtiments qui ont été inventoriés. Donc, on fait une sorte de va-et-vient permanent entre le travail de terrain et la recherche en archives. Sur ces édifices. Donc pour nous, les archives, on l'a dit, c'est une étape importante, mais ça apporte aussi beaucoup. Ce sont des informations qui sont utiles, même indispensables, pour retracer l'histoire du patrimoine, l'histoire d'une commune ou d'un édifice, d'une maison, château ou autre bâtiment.
Tout est compilé aux archives, c'est votre principale source de documentation, c'est-à-dire que vous allez sur, j'imagine, il y a une espèce de intranet des archives, là, vous tapotez Maison des Loups Kélus et bim, il y a tout qui apparaît, vous n'avez plus qu'à aller vous servir. Comment ça se passe ?
Alors, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Je l'ai dit tout à l'heure, on utilise beaucoup, dans un premier temps en tout cas, les plans cadastraux, le plan qu'on appelle le plan napoléonien. Alors ce plan-là, effectivement, on peut le trouver en ligne sur les sites des archives de Tarn-et-Garonne. C'est un plan qui a été réalisé entre 1808 et 1839 dans notre département. C'est un plan qui est parcellaire, donc il a un intérêt pour nous parce qu'on y voit l'implantation des bâtiments, leur organisation, mais on y trouve aussi d'autres informations concernant les chemins d'accès, les parcelles de terre qui peuvent être associées à ces bâtiments au moment où le plan a été réalisé, donc en ce début du XIXe siècle. Et puis, le cadastre napoléonien, il est composé de ce plan, mais également de matrices. Des matrices, ce sont des sortes de grands cahiers qui, eux, les matrices ne sont pas encore en ligne via le net, mais on se rend, c'est à ce moment-là que nous, on se rend physiquement aux archives départementales pour consulter ces registres qui ont un intérêt pour retracer l'évolution d'une maison, d'une propriété. Parce qu'on va retrouver qui était propriétaire tout au long du 19e siècle, quand il y a eu changement de propriétaire, mais également ça nous intéresse, nous particulièrement, parce qu'on peut aussi voir quand et comment la maison a été modifiée. Donc, sont signalées les augmentations ou diminutions du bâti. De façon régulière, j'allais dire, c'est presque systématique que l'on retrouve l'évolution du bâtiment, de la maison, ou quel que soit le bâtiment d'ailleurs. C'est une ressource essentielle, c'est une source fiscale qui existait déjà lors de l'Ancien Régime. Et à cette époque-là, on appelait ça un compois. C'est un peu l'ancêtre du cadastre napoléonien, le compois. Et c'est également un document, une source fiscale qu'on peut retrouver aux archives départementales.
Alors, au sujet des archives qu'on appelle les archives de l'Ancien Régime, donc les compois. Alors, un compois, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est que ce mot de compois? Ça vient de comput, calculé en latin, et transformé en occitan par l'usage en compois. Donc, c'est l'endroit où les déclarants d'une commune vont venir. Ça se faisait là vraiment physiquement. Les gens venaient devant le rédacteur du compois déclarer les maisons qu'ils détenaient. Donc, ça se faisait ce qu'on appelle à l'Ancien Régime, c'est-à-dire avant la Révolution française. En fait, en réalité, avant le cadastre qu'on dit napoléonien, donc réalisé sous l'Empire de Napoléon. Et donc, ça se faisait au Moyen-Âge, par exemple. C'est pour ça que ce sont des sources qui nous intéressent, parce qu'elles sont parfois conservées donc dès le Moyen-Âge, et on peut les retracer pendant ce qu'on appelle, nous, l'époque moderne, donc c'est-à-dire la Renaissance, et ensuite sous les différents rois de France de l'époque moderne. Donc, une source très intéressante, puisque si on a réussi à faire la généalogie grâce à ce qu'on appelle ensuite le cadastre à partir du 19e siècle, on peut parfois tenter de remonter et de refaire une généalogie pour les périodes plus anciennes. Alors, on n'arrive pas toujours à le faire parfaitement, puisque tous les compois ne sont pas toujours conservés intégralement de 1799 jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, mais on peut réussir sporadiquement à avoir un compois de 1612, un compois de 1745, un compois de 1342, par exemple. J'ai dit date totalement au hasard. Et ça, pour nous, c'est des sources vraiment précieuses, parce qu'elles vont pouvoir nous renseigner à une époque donnée sur l'édifice. Alors, c'est toujours un peu compliqué, par contre, parce qu'il n'y a pas de plan, enfin très 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 rarement, de plan associé à ces compois. C'est vraiment un livre.
Après le 17e, bien souvent, les plans associés à ces registres, ces compois, apparaissent. Mais effectivement, auparavant... C'est rarissime.
Pour les périodes médiévales, on n'a pas de plan, donc c'est un jeu pour la personne qui va étudier la source, puisque c'est un grand cahier où chaque déclarant a un petit paragraphe par édifice déclaré, ou jardin, ou terre. Et il va donner à chaque fois ses quatre voisins. Donc ensuite, il va dire, voilà, ma maison est à côté de la maison de un tel, à côté de la maison de un tel, et à côté, si on a de la chance, d'une porte de ville, d'un puits, d'une place, et aller dans telle rue. Et ensuite, c'est tout un jeu pour pouvoir reconstituer tous les voisins les uns après les autres et réussir à retrouver où est la maison. Bon, là, c'est en réalité, maintenant, on fait ça avec des logiciels pour aller plus vite. Donc voilà, pour les compois, ça, c'est ceux qui sont réalisés par les communautés, donc les municipalités. Mais il existe des sources fiscales équivalentes réalisées par les seigneurs, puisque sous l'Ancien Régime, il y avait encore... chaque localité a son seigneur. Donc les seigneurs, eux aussi, puisque les gens allaient payer des impôts. Le but du compois, c'est de payer des impôts. Hein. C'est les impôts qu'on va payer à la fin à la communauté. Donc le seigneur va aussi prélever des impôts. Donc il va faire réaliser son propre ancêtre du cadastre, qu'on appelle le terrier, qui est là souvent associé à des plans terriers. Pareil qu'on conserve plus régulièrement à partir du 17e 18e siècle. Donc c'est le même principe, mais c'est le seigneur qui va percevoir l'impôt qui est écrit à la fin de la déclaration de chaque personne. Par exemple, dans le département du Tarn-et-Garonne, il y a aussi de nombreux plans du 18e siècle qui ont été découverts et redécouverts récemment, qui sont associés donc à des cahiers type compois ou cadastre, et qui sont pour nous une mine d'informations vraiment précieuses. Puisque donc il y a c'est des plans qui sont pas aussi bien réalisés que ceux qu'on fait aujourd'hui, mais souvent quand même assez bien réalisés. On reconnaît très rapidement les villes, puisqu'elles sont pas toujours identifiées par contre sur le plan, je crois.
Alors on en connaît de ces plans du 18e pour les villes de Queilus, Montricou, Bruniquel, Caussade également. Et effectivement, comme le dit Léa, ça nous apporte des informations sur l'évolution de la ville, puisque à cette époque-là, ils ont souvent été réalisés durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, on a encore des éléments de fortification qui peuvent apparaître en plan, des fossés, le sens du détail parfois va même jusqu'à des éléments de végétation qui sont aux abords de la ville. Mais dans la représentation des parcelles, c'est beaucoup plus sommaire que le plan cadastral, par exemple, napoléonien. Mmh. Voilà. Et ils ne sont hélas pas toujours associés à une liste de propriétaires. Il s'agit d'identifier le propriétaire qui parfois est mentionné sur la parcelle, mais sur d'autres plans, c'est pas le cas. Donc oui, ce plan 18e, c'est aussi une source précieuse pour nous, qui nous permet de comprendre l'évolution urbaine, de faire des comparaisons avec ce qui reste aussi en élévation aujourd'hui, et puis de documenter, encore une fois, et de localiser certains édifices qui ont totalement disparu.
Et tout le monde peut venir faire un détour par les archives départementales pour les consulter. Il y a un protocole à remplir, il faut s'inscrire, ça se fait en 2-2, c'est ouvert à tous. On peut d'ailleurs faire un détour par www.archives82.fr pour se renseigner, pour avoir un petit aperçu. Et vous, au service inventaire du patrimoine, on imagine que c'est aussi un moment d'émotion de défeuiller tous ces bouts de papier qui n'ont pas été touchés depuis un certain temps. Vous avez eu des belles surprises, des moments forts dans ces farfouilles?
Alors, on a eu des moments d'émotion qui étaient face à des archives, on va le dire comme ça, qui n'étaient pas forcément aux archives départementales, mais une fois sur le terrain, il y a une dizaine d'années, dans une maison de Montricou, on observait l'élévation, on observait la façon dont la maison a été construite, dont le torchis avait été mis en œuvre, et en se rapprochant de plus en plus de ce mur, on a vu entre le bois et le torchis quelque chose qui dépassait, et en tirant ce quelque chose avec une lame de couteau, il s'agissait d'un papier qui avait été plié en plusieurs morceaux, et quand on a déplié ce papier, c'était une source qui avait été rédigée par l'un des propriétaires de la maison du 15e siècle, de la deuxième moitié du 15e siècle, et qui avait volontairement été cachée là, entre une pièce de bois et le torchis. Autant vous dire que l'émotion était à son comble, on n'y croyait absolument pas, Léa était là également.
500 ans, le bout de papier.
Même 600, c'était ouais. un grand moment d'émotion, d'être les premières à lire ou à essayer de lire ce qui était écrit sur cette archive.
Un petit bout de papier qui était coincé dans la cloison, qui a été coincé là au 15e siècle, la cloison a été recouverte d'enduit. Donc, il s'est endormi dans la cloison entre un morceau de bois et un bout de torchis. Et puisque l'enduit, au fur et à mesure du temps, est tombé, nous, on a pu voir ce petit bout de papier, le déplier et se retrouver face à... Alors, pour être précis, en fait, c'était une reconnaissance de dette du propriétaire avec d'autres personnes qu'on n'a pas forcément encore identifiées. Mais c'était quand même très émouvant de trouver cette petite cachette dans la cloison pour une personne du 15e siècle qui avait caché sa reconnaissance de dette dans la cloison, comme on pourrait peut-être le faire encore aujourd'hui, je ne sais pas.
Et lors de ces découvertes exceptionnelles chez des particuliers, mais c'est à nous de les sensibiliser aussi pour qu'ils donnent aux archives départementales leurs sources pour qu'elles soient dans un second temps accessibles à tous.
Les Capsules du Patrimoine, une émission depuis le Pays Midi-Quercy, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr avec le soutien du programme européen Leader, la région Occitanie et le département du Tarn-et-Garonne.